Pour Jean Jouzel, l'homme met la Terre en surchauffe.
Malgré des signaux de plus en plus probants du réchauffement climatique, certains doutent encore et raillent l'évidence. Depuis moins d'un siècle, c'est-à-dire une goutte d'eau dans l'océan de l'histoire de l'humanité, l'homme produit des activités, notamment industrielles, qui ont de graves conséquences sur le climat. Le réchauffement climatique et son lot de catastrophes planent au-dessus de nos têtes. Température en hausse, sécheresse et catastrophes naturelles à répétition, fonte des glaces et du permafrost ou encore élévation du niveau de l'eau des océans, l'espèce humaine est en face d'un problème dont elle est responsable. La production de gaz à effet de serre, l'appauvrissement des ressources terrestres et des terres elles-mêmes menacent aujourd'hui l'existence même de l'humanité et des espèces vivantes. Et depuis 30 ans déjà, des scientifiques alertent les populations. Le climatologue Jean Jouzel fut l'un des premiers à transmettre ses inquiétudes. Le GIEC, groupe d'experts de près de 200 pays pour le climat, ne cesse aussi d'alerter et le message passe dans l'opinion. La conscience écologique se développe, les jeunes se mobilisent, des efforts sont faits, mais les climato-sceptiques sont toujours là, au rang desquels des dirigeants politiques sans scrupules, comme Trump ou Bolsonaro, entre autres, car l'économie est liée au climat. Gaz de schiste et déforestation de l'Amazonie, par exemple, des bienfaits juteux immédiats pour les uns, des catastrophes irréversibles demain pour les autres. Avec l'économiste Pierre Larouturou, Jean Jouzel a lancé le pacte finance-climat, avançant une autre économie pour ralentir le réchauffement climatique. Tous deux sont engagés à gauche, Larouturou étant aujourd'hui député européen Europe Écologie Les Verts. Invité au centre d'astronomie de Saint-Michel, l'Observatoire, où l'accueillait Fabien Marquet et son équipe, Jean Jouzel a répondu à mes interrogations sur le sujet et ses motivations, difficultés et déceptions. Pêle-mêle, réchauffement climatique, position des USA, Australie ou Brésil, l'accord de Paris ou encore la question des réfugiés climatiques. Cet entretien a été réalisé pendant le G7 de Biarritz. Jean Jouzel, vous êtes un scientifique et un climatologue réputé et vous êtes ici à Saint-Michel l'Observatoire. Quel est le lien entre le climat et l'Observatoire des étoiles, par exemple?
Je dirais que nous faisons partie de la même famille scientifique. D'ailleurs, nous nous retrouvons dans tous les organismes, dans cette grande famille qu'on appelle science de l'univers. Donc nous nous intéressons, aussi bien les astronomes que nous-mêmes, à notre univers. Donc plus spécifiquement pour ce qui me concerne, disons mon point d'accroche, c'est vraiment le climat terrestre, mais on a aussi des collègues qui s'intéressent aux planètes, au climat planétaire, donc on retrouve aussi cette notion de climat, finalement, au moins pour les planétologues, donc c'est aussi important. Puis, bon, il y a aussi un autre lien qui est de curiosité, mais c'est vrai qu'il y a maintenant une différence dans laquelle l'astronomie, c'est beaucoup de curiosité, mais disons, on ne parle pas beaucoup de... Il n'y a pas la notion de problème, de difficulté. Il y a vraiment cette notion de découverte qui est passionnante, de comprendre l'origine de l'univers, l'origine de la vie d'ailleurs aussi. Mais bien sûr, pour nous, climatologues, on a aussi à la fois l'intérêt... Enfin, j'ai passé toute ma carrière à essayer de comprendre comment fonctionnait le climat à partir des glaces de l'Antarctique, du Groenland. Donc cette curiosité est bien là, à cette approche de recherche fondamentale. Mais c'est aussi devenu, à travers le rôle des activités humaines sur notre climat, un problème de société. Donc c'est peut-être un peu la différence, mais autrement on s'intéresse aux mêmes objets, on se retrouve très souvent et c'est assez généralement la même formation. Donc on a beaucoup de modélisation, on se retrouve autour de, disons, des physiciens, largement aussi des chimistes, bien sûr, mais cette formation aussi, il y a aussi cette notion de modéliser, parce qu'on ne peut pas tout, disons, il y a l'observation, qui est, on est ici justement au centre d'astronomie, l'observation est au cœur de cela, il y a à côté l'observatoire de Haute-Provence, donc l'observation est au cœur du métier de l'astronome, et il doit aussi, on voit bien après... Bon, quand on regarde, il ne suffit pas d'observer, il faut aussi comprendre et modéliser les interactions entre les objets. Ça a été le cas, par exemple, de la découverte des exoplanètes qui a été faite ici, à l'OHP, donc par, disons, Majoré Kélos. Donc on voit bien cette approche. On a cette même approche, mais il y a, disons, on voit bien, on est aujourd'hui, c'est le G7, et ce problème climatique va être au cœur, disons, d'une discussion. C'est bien au-delà de... C'est vraiment un problème planétaire et cet aspect-là m'intéresse aussi. Moi-même, je suis mon propre domaine d'expertise, c'est plus la connaissance de l'évolution du climat à travers les climats passés, leur compréhension. Mais je me suis naturellement, j'ai été naturellement conduit à m'intéresser au climat du futur qui est très marqué par ce rôle des activités humaines, cette influence que nous avons, chacun d'entre nous, en gros, en tout cas collectivement, sur notre climat, et ceci depuis en particulier le XXe siècle, et surtout donc ce réchauffement climatique, il est désormais perceptible, il n'est pas encore dangereux réellement, nous sommes sur des trajectoires, le climat que nous vivons aujourd'hui est vraiment celui que nous envisagions il y a une trentaine d'années, au moment où le premier rapport du GIEC, ce groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, a été présenté en 1990. Quand on regarde les premiers résultats, bien nous sommes vraiment sur ce climat avec un réchauffement de 1 à 2 dixièmes de degré par décennie, plutôt 2 dixièmes sur la dernière décennie, et puis cette perception d'une augmentation des événements extrêmes, de l'intensification de certains événements extrêmes qui fait d'ailleurs que pour beaucoup de nos concitoyens, on peut parler de canicule, on peut parler de sécheresse un peu plus dure, disons, qui fait que ce qui n'était pas vrai il y a une quinzaine d'années, quand nous disions, le climat change, ça tombait plutôt dans le vide. Souvent, on n'avait pas beaucoup d'écho, ce n'est pas le cas actuellement. Si on dit le climat change, les gens en ont pris conscience. Alors après, bien sûr, même en prendre conscience n'est pas suffisant pour l'action. Ensuite, il faut, et c'est là notre rôle aussi de pédagogue, malheureusement, mettre en avant ces arguments qui nous montrent clairement que ce réchauffement que nous vivons, en particulier depuis les années 50, est largement lié aux activités humaines. Pourquoi ? Donc ça, c'est notre rôle, et que les causes naturelles de modification du climat, la variation de l'activité solaire ou bien les grands volcans n'ont pas un rôle très important. Ils ne peuvent jouer que pour un dixième degré sur un réchauffement qui n'est pas loin d'un degré depuis le milieu du XXe siècle. Donc ça, c'est notre rôle de le comprendre. Et même, je dirais, parmi les gens qui acceptent l'idée que nous sommes collectivement responsables, en particulier de ce réchauffement, je dirais que c'est un préalable à l'action, mais ce n'est probablement pas suffisant pour l'action. Et l'action, eh bien, c'est maintenant qu'on doit vraiment la mettre en œuvre. Si on revient aux aspects politiques, le dernier grand acte politique, c'est l'accord de Paris. On est en 2015, il y a maintenant 4 ans. Disons que cet accord de Paris, un objectif assez clair, prendre des mesures pour limiter le réchauffement climatique bien en deçà de 2 degrés, voire 1,5 degré par rapport au pré-industriel. C'est quelque chose qui semble très difficile. Il faut dire que si rien n'était fait pour lutter contre le réchauffement climatique, nous serions plutôt vers 4 à 5 degrés à la fin du siècle. Et même si les engagements de l'accord de Paris étaient respectés sur la période 2020-2030, eh bien nous sommes sur une trajectoire qui nous emmènerait vers 3 degrés à la fin du siècle. Et c'est beaucoup trop par rapport à la capacité d'adaptation. Il y a bien sûr une capacité d'adaptation qui est bien réelle. On peut s'adapter au réchauffement climatique, on peut s'y adapter si ce réchauffement est limité. Et c'est bien d'ailleurs la démarche, c'est bien dans cette dynamique que l'accord de Paris s'inscrit. C'est-à-dire que l'idée, c'est de tout faire pour limiter le réchauffement climatique de façon à ce que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'y adapter. Cette adaptation sera possible pour l'essentiel si on sait, un réchauffement supplémentaire d'un degré, même si possible un demi-degré, c'est ce que nous dit le dernier rapport spécial du GIEC sur un climat à 1,5 degré, mais même limité à 2 degrés par rapport à un pré-industriel, 1 degré de plus qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est un vrai défi, puisqu'il faudrait diminuer de 40%, enfin 20% entre 2020 et 2030 nos émissions, et avoir une neutralité carbone dans la deuxième partie de ce siècle. Et pour 1,5 degré, c'est une neutralité carbone à horizon 2050, et déjà diviser nos émissions, enfin presque par deux, entre 2020 et 2030. Donc on voit bien, ça semble vraiment quasiment impossible, et pourtant c'est ce même discours que nous tenons pratiquement depuis 30 ans, et il faut faire le maximum pour limiter le réchauffement climatique.
Depuis 30 ans, donc, vous alertez les grands et les petits de ce monde. Est-ce que vous avez connu des moments de découragement ?
Oui, il y a eu, alors avant de parler des moments de découragement, il y a eu quand même des points positifs. Finalement, Bon, moi, je me suis beaucoup impliqué dans le GIEC à partir du deuxième rapport. Il sort en 95 et en fait, c'est dans ce second rapport qu'il est dit qu'il y a un ensemble d'éléments qui suggèrent une influence perceptible des activités humaines sur notre climat. En gros, c'était la première fois que la communauté scientifique disait que, en tout cas, laissait entendre, en tout cas, disait oui assez clairement, mais avec beaucoup de précautions quand même, que bien nous étions déjà dans un monde, nous étions déjà en train de modifier le climat. Alors évidemment, ce diagnostic s'est, vraiment confirmé et puis est beaucoup plus clair actuellement, puisque nous sommes quasiment certains que le réchauffement climatique est lié aux activités humaines. Mais disons qu'il y a justement une vingtaine d'années, enfin, disons maintenant 25 ans, 95, ce n'était pas si évident. Et pourtant, cette phrase, c'est elle qui a qui a déclenché le processus de Kyoto. Le protocole de Kyoto résulte vraiment, quand on regarde un des éléments qui a fait que le protocole de Kyoto se mette en place, c'est vraiment ce rapport du GIEC et cette suggestion d'une influence perceptible de l'homme sur le climat. Et puis après, là on va passer dans les déceptions. Déceptions parce que ce protocole, il est assez ambitieux finalement, il est assez bien dimensionné à l'époque, mais malheureusement les États-Unis ne le ratifient pas. Hein, c'est George Bush qui est élu et non pas Al Gore, même si certains pensent qu'Al Gore aurait dû être élu, bien sûr. Mais donc c'était quand même une grande déception, parce que ça joue un rôle très important dans la, disons, dans le fait que le protocole de Kyoto n'a pas été suffisant pour maîtriser l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, loin de là d'ailleurs, puisque deuxième déception, c'est Copenhague. On se dit quand même il faut faire quelque chose. Donc on voit bien que dans les années 2000, les émissions augmentent très rapidement, en fait. Hein, ce qui il n'aurait pas fallu que ce soit le cas. Mais, il y a une certaine ambition à Copenhague, et puis à la fois la crise économique, cette fois, 2008, on est juste après la crise économique, c'est pas un contexte favorable, et rien ne se passe comme on s'y attendait. Il y a pas, même si tous les chefs d'État j'y étais, c'était très prenant, voir tous ces chefs d'État de la planète réunis, d'ailleurs dans des petites salles, hein. Moi j'étais avec Nicolas Sarkozy, on voyait Obama, tout ça, tout le monde était là, mais ça n'a pas été suffisant pour, Copenhague n'a pas eu du tout l'ambition. Et d'ailleurs, ce manque d'ambition de Copenhague, c'est maintenant qu'on le ressent, puisque l'accord de Copenhague, c'était sur la période 2015-2020, la période où nous sommes. Et en fait, il y a pratiquement que l'Europe et quelques autres pays qui se sont engagés dans des objectifs chiffrés. Alors Paris, c'est dans les choses qui m'ont beaucoup qui m'ont redonné le moral, mais je suis aussi pas mal investi au niveau français, c'est l'accord de Paris, évidemment. Alors l'accord de Paris, c'est un succès par ses objectifs, pas par ses engagements, j'ai déjà un peu dit, puisque ses engagements sont largement insuffisants par rapport aux objectifs. Les engagements pris par les pays à horizon 2030 nous font faire qu'un tiers du chemin pour rester au niveau de 2 degrés, qu'un cinquième du chemin pour rester au niveau d'un degré et demi, mais par son universalité. C'était la première fois qu'un accord international était ratifié par tous les grands pays. Il faut se rendre compte que parmi les pays émetteurs, alors tous les pays l'ont signé, l'étape suivante c'est la ratification, tous les grands pays l'ont ratifié, sauf la Russie et quelques autres pays. Malheureusement, il y a bien sûr son arrivée au pouvoir, Donald Trump, une des premières décisions, enfin d'ailleurs c'était dans sa campagne électorale, et la décision de quitter l'accord de Paris. Et donc cette force de l'accord de Paris qui était son universalité, et bien évidemment, on a pris un coup, c'est très clair. Donc c'est là une déception, et cette déception, mais on la voit actuellement, elle est renforcée par ce dont on discute aujourd'hui, la politique au Brésil de Bolsonaro, le manque d'enthousiasme de pays comme l'Australie, qui font plutôt marche arrière, difficulté au Canada quand même si Justin Trudeau reste dans les objectifs assez clairs. Et ce que l'on ressent, c'est que si personne n'avait quitté le bateau, la Russie aurait effectivement ratifié l'accord de Paris. Mais là, on peut craindre que la Russie ne ratifiera pas l'accord de Paris. Donc, sans la Russie, sans l'Australie, sans les États-Unis, pratiquement sans le Brésil, même si officiellement les États-Unis, Australie et Brésil n'en sont pas sortis officiellement, bien sûr l'accord de Paris ne remplira pas ses objectifs, dont je redis qu'ils sont déjà insuffisants. Donc c'est quand même beaucoup de déceptions, et on voit bien cette intrication entre le diagnostic des scientifiques. On dit, on redit, je crois, les mêmes choses depuis 30 ans, franchement. Et effectivement, les décisions politiques. Et il faut pas non plus... Le politique est très important, mais quand on regarde ces décisions politiques, ce sont aussi largement dictées par, je crois, profondément le souhait de chacun d'entre nous. Hein, disons, c'est très clair que, bien sûr, la décision, elle est politique. Mais quand on parle de l'action, eh bien, elle va être au niveau régional, au niveau du transport, enfin de la mobilité, du transport en général, de l'urbanisme, de l'alimentation. Hein, disons, ces trois postes, disons, en France, c'est plutôt 60% des émissions, et nous sommes finalement chacun d'entre nous, disons, nous sommes directement concernés. Donc, bien sûr, les décisions, les décideurs politiques ont un rôle important à jouer. Ils l'ont joué d'ailleurs en signant l'accord de Paris. En France, il y a une loi ambitieuse, la loi sur la transition énergétique, hein, elle est ambitieuse avec largement grâce à Nicolas Hulot, cet objectif de neutralité carbone, pardon, à raison 2050. Donc la loi est très bien en France. Hein, donc, mais malheureusement, là aussi, on prend déjà du retard par rapport à cette loi. Hein, c'est très clair. Et moi j'ai un peu d'espoir, donc, mais enfin, je suis impliqué dans le comité de gouvernance de la Convention citoyenne qui est en train de se mettre en place, c'est-à-dire que, disons un peu, c'était aussi pour plus la sortie des gilets jaunes, eh bien, Macron, une des propositions, c'était que, disons, il y a une convention citoyenne, hein, donc 150 citoyens tirés au sort qui vont proposer, disons, d'ici février, mars, des mesures, enfin on l'espère, pour effectivement rendre concret la lutte contre le réchauffement climatique. Et en gros, la question qu'il aurait posée est comment fait-on pour que la France respecte les objectifs de la loi sur la transition, hein. Donc voilà, donc je suis assez impliqué dans le comité de gouvernance. Je reste très impliqué, je suis intéressé par les aspects politiques également. Je suis membre du Conseil économique, social et environnemental depuis, c'est mon second mandat. Je me suis beaucoup investi sur les aspects climat, sur l'adaptation, sur, bien sûr, qui est très importante, sur ce qu'on appelle la justice climatique, c'est-à-dire ce constat qui est clair, c'est que, et c'est d'ailleurs là aussi un des thèmes du G7, hein, c'est que la première conséquence du réchauffement climatique, quand on prend ses impacts, non pas un par un, mais dans leur ensemble, c'est le risque d'accroissement des inégalités. Et c'est vrai qu'on le sent bien, on en est bien conscient entre pays riches et pays pauvres, alors que ces derniers n'ont pas beaucoup joué n'ont pas eu beaucoup d'impact dans les émissions elles-mêmes. Ce qu'on perçoit moins, c'est que c'est vrai aussi pour les pays riches, les pays de l'OCDE, je dirais. En gros, ce sont quand même les couches les moins aisées de la population qui sont les plus fragiles par rapport au réchauffement climatique. Il suffit d'analyser on peut prendre un cyclone comme Irma, c'est clair que les habitations qui sont détruites en région côtière, cet effet de briques et de broc, au bord de mer, c'est clair que les belles villas, bien construites, n'ont pas beaucoup souffert. On peut regarder d'autres exemples, mais c'est vrai dans les impacts du réchauffement climatique, et c'est vrai aussi, et on revient ici aux gilets jaunes, c'est vrai aussi dans certaines mesures, et c'est ça la difficulté, qui peuvent être prises, qui doivent être prises à notre avis au moins. Je suis vraiment favorable à une fiscalité écologique, enfin une fiscalité environnementale, une fiscalité écologique. Il y a des mesures qui doivent être prises pour lutter contre le réchauffement climatique et l'adaptation et le risque, et on l'a bien senti, c'était quand même le point de départ des gilets jaunes, ce risque, mais c'est que certaines de ces mesures, et c'était le cas de l'augmentation de la taxe carbone telle qu'elle était envisagée, sont profondément injustes. C'est-à-dire qu'elle affecte de façon relative, tout au moins, pas absolue, mais de façon relative, elle affecte plus les couches les moins aisées de la population que les riches, chirons, sont très clairs, disons. Donc voilà, donc tout cela, c'est ce témoignage que je souhaite apporter. Donc je continue à témoigner aussi, bien sûr, beaucoup, j'aime beaucoup la démarche ici, hein. Ici, on est dans largement un centre pédagogique aussi, hein, donc tourné vers les jeunes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est important, j'ai aussi beaucoup cette envie de témoigner auprès des jeunes, aussi auprès, bien sûr, des populations. Je fais pas mal de conférences grand public, et j'ai essayé aussi, et d'ailleurs nous en parlerons ce soir, hein, donc j'ai essayé aussi de m'investir à un autre niveau, qui est celui de de ce constat finalement qu'on a fait au départ avec Pierre Laroutourou, que lutter contre le réchauffement climatique, c'est à la fois beaucoup d'efficacité énergétique, beaucoup de sobriété, c'est-à-dire que l'efficacité énergétique, c'est en gros faire les mêmes choses avec moins d'énergie, la sobriété, c'est un peu faire attention à ce qu'on fait, bien sûr, regarder aussi comment on produit l'énergie, le mix énergétique, mais ce sont aussi, et c'est notre constat, beaucoup d'investissements. Donc il est clair que la transition énergétique telle qu'elle est, la loi sur la transition énergétique telle qu'elle est inscrite actuellement, les objectifs ne sont pas respectés s'il n'y a pas d'investissement supplémentaire en France. Ce n'est pas que notre constat, mais c'est le constat par exemple du rapport Grandjean Canfin d'il y a 2-3 ans. Donc il faudrait, certains parlent de 30 milliards, 40 milliards d'euros supplémentaires, en gros entre 1 et 2% du PIB supplémentaire pour pouvoir réussir la transition énergétique. Donc c'est pas simplement, c'est aussi une question de dynamisme économique, de création d'emplois. Donc c'est tout ça, c'est ça qui nous a conduit effectivement à lancer cette initiative au niveau européen avec Pierre Laroutourou, qui est, disons, de pacte finance-climat, cette idée de création d'une banque européenne pour le climat et la biodiversité, les deux problèmes étant quand même assez liés. Et voilà, donc cette initiative, j'espère qu'elle se concrétisera. Donc Pierre est maintenant député européen, malheureusement il ne sera pas là ce soir, il ne peut pas, justement parce qu'il est député européen, c'est-à-dire qu'il a d'autres contraintes, mais voilà, donc on va continuer à suivre cette initiative et espérer que quelque chose se passe, parce que nous sommes convaincus, nous ne sommes pas les mêmes, pas les seuls, que il faut aussi investir, il faut de l'inventivité, il faut de la... c'est aussi quelque chose qui, à mon avis, est attractif pour les jeunes, cette transition, parce que c'est des créations d'emplois, mais aussi beaucoup d'inventivité, de recherche aussi. Je suis chercheur, donc il y a besoin de recherche, on a besoin de jeunes qui s'impliquent à la fois dans l'action, mais dans la recherche également, qui proposent des solutions, parce qu'ils sont quand même doublement concernés. Ils sont concernés par l'inaction. C'est-à-dire que si on ne fait rien, c'est eux qui prendront, le réchauffement climatique, ma génération, on passera à travers. Même si j'étais centenaire et si on prenait un degré supplémentaire d'ici les années 2040-2050, on pourrait s'adapter. C'est clair, en faisant un pays comme la France, ça serait difficile dans d'autres. Mais le problème, c'est que si on ne fait rien d'ici... pour lutter contre le réchauffement climatique, sur l'inaction, ce sont les jeunes d'aujourd'hui qui prendraient 3-4 degrés, ils auront mon âge en gros. Et ça, c'est très très difficile à accepter. Et l'action, c'est aussi leur action maintenant. L'action des 10 prochaines années, c'est beaucoup de jeunes qui vont rentrer dans la vie professionnelle. Et bien sûr qu'il faut les motiver, qu'ils se motivent, que ce devienne aussi leur cheval de bataille de réussir cette transition. Et je le redis, je redirai ce soir encore, je dirai beaucoup les mêmes choses, mais c'est aussi synonyme de dynamisme économique, non pas le contraire. Donc je le pense sincèrement.
Il y a aussi un problème qui risque d'arriver d'ici 5 ans, c'est tout simplement les migrations climatiques, avec évidemment une partie de l'Afrique qui risque d'arriver en Europe. Et on voit bien actuellement, avec le peu de migrants entre guillemets qui arrivent sur nos côtes, ce qui se passe, mais on imagine des millions, et ça, c'est personne ne s'y attelle.
Non, personne ne s'y attelle. Enfin, la meilleure façon de s'y atteler, alors je dirais que la meilleure façon de s'y atteler, c'est évidemment d'aider au développement de l'Afrique, mais qui soit un développement sobre en carbone. L'Afrique, en termes de possibilités de potentiel d'énergie renouvelable, est bénie des dieux, c'est très clair. L'Afrique a, tout ce qu'elle souhaiterait en termes de solaire, mais aussi dans certaines régions d'éolien, de biomasse, dans d'autres régions d'hydraulique d'ailleurs, de géothermie dans certains cas également. Mais disons que l'Afrique potentiellement, il y a un potentiel renouvelable extrêmement important. Qui peut subvenir, je dirais presque malheureusement. Alors c'est un peu dur de dire ça, malheureusement l'Afrique est aussi un continent qui recèle beaucoup de ressources en hydrocarbures, on voit bien la tendance naturelle évidemment d'un continent comme cela, c'est de se développer, ce qui est normal. On parle d'une population qui doublerait entre 2020 et 2050, passer de 2 milliards en Afrique, c'est vrai. Et bien sûr que la seule façon, la façon la plus intelligente, serait effectivement, ou sera, j'espère, d'aider l'Afrique, que les pays riches aident l'Afrique à se développer. Alors, évidemment, notre intérêt, on peut aider de... parler de développement, s'il n'y avait pas le problème d'effet de serre, disons, le développement pourrait tout à fait construit autour des ressources naturelles que sont le gaz, le pétrole ou le charbon, hein, quand on regarde l'Afrique du Sud, par exemple. Mais bon, les problèmes de l'effet de serre qui fait que ce développement doit être orienté vers un développement bas carbone, ou alors on perdra la bataille de la lutte contre le réchauffement climatique, et ce n'est pas l'intérêt des Africains, hein, parce que il faut rappeler à chaque fois que Si on prend 3 degrés en moyenne, c'est largement 3 degrés en Afrique. Hein, donc, et c'est ça un des problèmes. Il y a ce qui a été mis en évidence. Il y a certaines régions, ça peut être aussi l'Asie du Sud-Est, où avec le réchauffement, si on n'en prend pas la mesure, eh bien, il y a des endroits de cette planète où il ne sera plus possible d'avoir d'activité à l'extérieur. Alors, on ne parle pas, j'aime pas quand on parle de... Disons, c'est pas des milliards de morts, c'est pas ça du tout, hein, mais c'est un monde qui deviendra invivable au sens réel du terme. Hein, si on ne peut pas sortir l'été, avoir une activité physique, voilà. Donc l'Afrique est touchée, l'Afrique doit être aidée. Alors c'est quand même, normalement c'est inscrit dans l'accord de Paris, hein, c'est 100 milliards de dollars qui, alors il en vaudra mieux 200, paraît-il, pour aider l'Afrique, mais bon, c'est largement dirigé vers l'Afrique, qui devrait être mis à disposition de l'Afrique, enfin des pays en voie de développement plus généralement, pour les aider à lutter contre le réchauffement climatique et à s'adapter. Le problème, et on revient ici à Donald Trump, c'est que ça va, on verra bien l'an prochain, mais c'est à partir de 2020, vous voyez bien la difficulté, disons que les pays riches, en gros les pays de l'OCDE, comptaient beaucoup sur les États-Unis, un engagement réel des États-Unis pour que, disons, cet engagement des pays développés ne soit pas lettre morte. Et on sait que c'est quand même le fil rouge, enfin, disons, les pays en voie de développement ne suivront pas si les pays développés ne tiennent pas leurs engagements. Hein, il faut bien, et on les comprend, moi je pense. Et c'est aussi d'ailleurs pour cela que dans notre pacte finance-climat, il y a la création d'une banque et puis il y a aussi la création d'un budget européen qui serait pour nous nécessaire, en tout cas, donc, de 100 milliards d'euros chaque année. Mais en fait, dans ces 100 milliards d'euros, notre souhait, ce serait de diriger 50 milliards vers l'Afrique, parce qu'on pense que, au contraire de ce qui s'établit actuellement, il devrait y avoir un rapprochement. Il y aura tout intérêt que l'Europe se tourne plus vers l'Afrique qu'elle ne le fait actuellement, plutôt que d'une certaine façon de se rejeter l'Afrique. C'est plutôt l'avenir, c'est plutôt cela. Donc, si on laisse aussi les Chinois prendre pied en Afrique et tout, non, ce serait l'intérêt de l'Europe de se tourner vers l'Afrique. Et on a mis aussi, on propose 50 milliards pour vraiment aider l'Afrique à se développer suivant ce modèle. Donc, voilà, mais bon, tout cela risque de rester lettre morte, aussi bien des... Mais c'est important, oui, vous avez raison de dire. Donc c'est la meilleure façon, me semble-t-il, de limiter les migrants climatiques qui, effectivement, risquent d'augmenter. Les raisons de migration sont généralement de trois ordres. Il y a toutes ces régions où, effectivement, la sécurité alimentaire ne peut plus être assurée. Donc ça, c'est suite à des sécheresses ou des fois des inondations. On a vu le Mozambique, mais ce sont quand même des périodes de sécheresse. Et ça, surtout pour tout le Méditerranéen, y compris au sud de la Méditerranée, sur les régions subsahéliennes, le réchauffement climatique risque de s'accompagner d'une augmentation de l'intensité des sécheresses. Donc ce sont des régions où on entrevoit une augmentation importante des populations et aussi des risques, plus importants encore de sous-alimentation, d'insécurité alimentaire, je dirais. Ensuite, il y a quand même certaines régions, dans les régions côtières, il y a aussi toutes ces régions, et on peut parler par exemple en Afrique, soit du delta du Niger, mais aussi le delta du Nil. Il y a vraiment des régions très fragiles par rapport à l'élévation des niveaux de la mer. Donc il y en a d'autres, hein. Il y a des villes comme New York, Tokyo, mais si on se limite à l'Afrique, il y a aussi ces régions qui sont assez fragiles par rapport à l'élévation du niveau de la mer, qui sont très, très peuplées, hein. Lagos devient une mégapole. Je crois 15 millions d'habitants actuellement, mais enfin c'est un peu flou, mais c'est de cet endroit-là. Et là c'est vraiment c'est une ville très vulnérable par rapport au changement climatique. Donc c'est une deuxième raison de migration. La troisième, ce sont vraiment les événements extrêmes. Hein. Donc ça peut être des précipitations intenses. Hein. Le dernier cas, des cyclones, bien sûr, hein, y compris. Disons, on a vu par exemple, le dernier exemple, c'est le Mozambique qui a été vraiment dévasté. C'est dans cette région, le sud de l'Afrique, ça a été 4 ans de sécheresse très difficile, auquel il a été très difficile de faire face. Et puis, au moins pour le Mozambique, pas pour toute la, mais enfin, le sud de l'Afrique en tout cas, le sud-est de l'Afrique, ces inondations terribles suite à un cyclone terrible. Il y a maintenant, je crois que c'était l'automne dernier. Donc on voit bien ces raisons. Après, eh bien, même si les gens ont envie de rester là où ils sont, s'il n'y a pas d'adaptation au réchauffement climatique, s'il n'y a pas effectivement, si les gens ne se sentent pas bien, ne se développent pas, alors c'est un équilibre difficile à trouver. Hein. On voit bien, c'est le dernier rapport du GIEC qui nous l'a rappelé, donc sur l'utilisation des terres, on voit bien que il va y avoir une certaine compétition entre l'utilisation des terres pour des fins énergétiques. Hein. Une des façons, si on voulait vraiment lutter contre le réchauffement climatique, il faudrait être en mesure d'extraire une partie du gaz carbonique de l'atmosphère. Et ce qui est envisagé, c'est de faire pousser de la végétation, de la biomasse, et de l'utiliser pour faire de l'énergie avec piégeage et captage du CO2. Tout ça, ça tient un peu du rêve, mais en tout cas, même si ça se réalisait, ça utiliserait des terres. Et il y a vraiment, avec 10 milliards d'habitants, voire plus, il faut espérer que ce serait quand même de l'intérêt de tout le monde que la population n'aille pas au-delà, la population mondiale. Même si c'est avant tout le comportement des gens et le type de développement qui est important, la population joue un rôle, on voit quand même bien cette difficulté poindre, et ça, le dernier rapport du GIEC le rappelle, c'est cette compétition entre l'utilisation des terres pour des fins énergétiques et des fins alimentaires. Donc on revient toujours à tout ça. Donc on voit bien que des pays comme l'Afrique, y a des régions plus fragiles. Quand on parle des régions vulnérables, c'est vraiment l'Afrique. Ce sont les petites îles et les régions côtières qui sont effectivement très sensibles à l'élévation du niveau de la mer. Il y a beaucoup dans l'Asie du Sud-Est. On peut parler de Thaïlande, de Vietnam, bien sûr Bangladesh, même la Chine, certaines parties. Des villes, Bombay, Calcutta, même Tokyo est fragile. C'est quand même ça qui est au cœur de notre développement. Et bien sûr, la seule façon de lutter contre tout cela, eh bien, la meilleure façon, c'est de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Il faut s'adapter également, mais l'adaptation ne sera possible que si on limite le réchauffement climatique. C'est d'ailleurs ça qui est au cœur. Les politiques l'ont bien compris, puisque c'est vraiment en fixant une limite ambitieuse pour la limitation de l'effet de serre qu'on réussira à s'adapter, au moins pour l'essentiel. L'élévation du niveau de la mer se poursuivra de toute façon, au moins de 40 à 50 cm d'ici la fin du siècle. Un siècle, un mètre à la fin du siècle prochain, on n'y échappera pas. Donc il y a certaines villes qui sont assez fragiles à ce niveau-là. Mais entre un mètre à la fin du siècle prochain, si on lutte contre le réchauffement climatique, et un mètre, peut-être, certains disent, d'ici à la fin de ce siècle, c'est pas pareil quand même. Et on parlerait dans ce cas-là, un réchauffement non maîtrisé, ce serait 2 à 3 mètres à la fin du siècle prochain, voire plus, et à l'échelle de quelques siècles ou du millénaire, la fonte du Groenland, ce qui correspond quand même à 7 mètres supplémentaires.